sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et je suis très heureux d'être avec vous de nouveau à Sans détour le 12 septembre après un été magnifique. J'espère que vous avez eu tous et toutes un été aussi excellent et goûteux que le mien. Beaucoup de tourisme au Québec, des produits du terroir, une gastronomie fantastique. Île-d'Orléans, Charlevoix, Saguenay, Canton de l'Est, voilà, j'en passe. Cela dit, on reprend le collier sans détour cette année, 90 minutes. Alors, on espère pouvoir vous informer, aborder les sujets de l'heure encore plus en profondeur. Et en parlant de sujets de l'heure, bien là, évidemment, c'est les élections. Nous aurons donc aujourd'hui les représentants, M. François Gagnon, du Parti conservateur du Québec, qui va nous parler des politiques qui sont mises de l'avant par son parti. Nous allons également avoir le plaisir d'avoir du Parti libéral Mme Jennifer Macaroni, qui est candidate dans Westmount-Saint-Louis, qui est la députée sortante, qui va nous parler également des politiques dans le programme du Parti libéral. On aura une chronique scientifique avec notre vulgarisateur maison, M. Philippe Ducharme. En fin d'émission, une grande demi-heure avec Camille Cusset pour une revue de presse tout azimut partout dans le monde. L'actualité autant, je dirais, sérieuse que ludique. Mais pour commencer, parlons élections avec Mme Julie Saint-Arnaud-Drolet, qui est porte-parole pour Élections Québec. Élections Québec qui récemment mettait de l'avant à nouveau sa politique d'accessibilité au scrutin. Bonjour Mme Saint-Arnaud-Drolet, comment allez-vous?
Bonjour, très bien, merci vous-même.
Ça va très bien. L'accessibilité des lieux du vote ou d'une manière ou d'une autre, l'accessibilité au scrutin est un sujet important parce qu'il faut que tout le monde puisse exercer son droit.
Absolument. Pour Élections Québec, c'est une question prioritaire. Depuis plusieurs années, on introduit des nouvelles initiatives, on multiplie les efforts pour que les électeurs puissent voter là, sans contrainte et en pleine autonomie.
Et dans ce sens-là, il y a eu dans le passé parfois des ratés. Combien de lieux physiques le jour du scrutin est-ce que Élections Québec requiert? Il y a combien oui. De bureaux de vote qui sont ouverts au Québec en même temps?
C'est assez impressionnant. Le 3 octobre, le jour des élections, là, on a plus de 4150 lieux de vote qui sont ouverts. Et cette année, là, j'ai déjà une statistique. On a 95% des lieux de vote qui vont être pleinement accessibles cette journée-là. Donc, un peu moins de 200 lieux de vote qui ne rencontrent pas l'ensemble de nos critères d'accessibilité. Mais tout de même, donc, plutôt une bonne moyenne. Et à cet égard, d'ailleurs, on a une nouveauté dont j'étais contente de vous parler aujourd'hui, c'est qu'on met sur notre site web l'ensemble des critères d'accessibilité rencontrés par chaque lieu. Et c'est une nouveauté pour cette année et c'est quelque chose qui nous semblait une belle avancée parce que parfois, bon, par exemple, la largeur d'un cadre de porte ne rencontre pas notre critère d'accessibilité, donc on ne désigne pas le lieu comme étant pleinement accessible. D'accord. Mais par contre, sur le site, on va indiquer la largeur de cette porte-là et peut-être que pour certaines personnes, ça ne fera pas obstacle. Alors que pour quelqu'un d'autre, ce serait problématique. Donc, de venir mettre ce détail-là sur notre site web ou en communiquant avec nous, tout le monde peut y avoir accès. On pense que ça peut vraiment être facilitant puis aider les gens à bien planifier leur vote.
Ce site, quelle est l'adresse du site pour qu'on puisse le noter tout de suite?
Oui, donc c'est élections.québec, www.élections.québec, tout simplement. Donc, sur le site d'Élections Québec, vous allez voir la section « Où voter ». Vous entrez votre code postal et vous allez avoir accès à l'ensemble des caractéristiques. Le site est accessible. C'est possible également de nous appeler. Là, notre équipe du centre de renseignement est tout à fait en mesure de vous renseigner sur les caractéristiques d'accessibilité du lieu de vote.
Ah, c'est un numéro 1888?
Oui, c'est 1888 élections. Là, je n'ai pas sous les yeux, mais je peux le trouver en même temps là, que je poursuis la conversation avec vous.
D'accord.
Puis je tiens à dire que ce dont je parle présentement, c'est le vote le jour même des élections, donc le 3 octobre, mais l'ensemble des lieux de vote par anticipation
aussi
vont être accessibles, 100% là.
D'accord, parce que là, évidemment, il y a moins de sites. Vous n'êtes pas à 4150 pour les votes par anticipation.
Exactement. Donc, il y en a
plus facile de contrôler cet aspect-là du...
Absolument.
La logistique.
Parce que, bien sûr, que notre volonté serait que l'ensemble des lieux de vote en tout temps le soit. Le jour des élections, en raison du grand nombre de lieux de vote qui est recherché, bien, on fait face à des enjeux. Premièrement, il faut composer avec les bâtiments existants, mais il y a aussi les questions de disponibilité des locaux. Donc, parfois, bien, il y en aurait un local qui serait préférable, il est accessible, mais il n'est pas disponible pour la journée des élections, alors on n'y a pas accès, là. Mm-hmm. Ce sont des contraintes, effectivement, avec lesquelles on doit composer.
Je comprends. Encore une fois, le numéro, c'est 1-888 élections.
Oui. Oui, exact. J'étais, je vous disais, je vais aller chercher en même temps que je vous parle. Finalement, j'ai parlé, j'ai arrêté.
Allez-y.
J'y vais. Donc, le site, c'est le 1-888-353-2846.
2846, parfait. 353-2846, 1-888. Avant, évidemment. Mais, et ça, ça nous permet de parler à quelqu'un de vive voix pour poser des questions au sujet des critères d'accessibilité. L'accessibilité, souvent, est entrevue du point de vue de quelqu'un qui est à mobilité réduite, par exemple, qui se déplace en fauteuil. Qu'en est-il de l'accessibilité pour les personnes qui peuvent avoir un handicap visuel?
Oui, absolument. Donc, à cet égard-là également, sur place, dans les lieux de vote, on a une trousse d'accessibilité, en fait, qui peut être demandée. Cette trousse-là va contenir une loupe lumineuse, pas juste pour les personnes aussi qui ont des troubles visuels, mais un crayon avec embout, une tablette avec une prise rigide, un gabarit en braille également avec des repères. On a des affiches avec les personnes candidates en gros caractères. Donc, ça fait partie de la trousse d'accessibilité. Il s'agit de la demander. Il y en a une dans chaque lieu de vote. Et en cas de besoin également, l'électrice peut ou l'électeur peut obtenir de l'aide soit d'une personne qui l'accompagne ou encore du personnel du bureau de vote.
D'accord.
Alors ça, je pense que c'est important de le savoir et de ne pas hésiter si vous le souhaitez.
Donc, il y a 4150 trousses qui vont être distribuées dans 4150 bureaux de scrutin.
Oui, absolument.
Ouf. D'accord.
Absolument. Puis, je vous parlais tantôt aussi là, de la recherche des lieux de vote, hein, qui est parfois un défi en raison du grand nombre de lieux nécessaires, mais la façon dont on travaille, on a dans chacune des circonscriptions une personne qui est vraiment responsable de l'accessibilité des lieux. Et avant les élections, donc plusieurs mois avant les élections, cette personne-là a ciblé différents lieux de vote potentiels et en a évalué l'accessibilité pour proposer des obstacles, des solutions aux obstacles potentiels. Alors, la personne va s'assurer aussi, en période électorale, à adapter le lieu de vote si nécessaire. Donc, ça va arriver souvent qu'on va ajouter des rampes d'accès, par exemple. Ce qui fait en sorte que parfois les gens connaissent le lieu puis se disent « Ah non, ce lieu-là n'est pas accessible, mais on a pu l'adapter pour éliminer les obstacles. » Et c'est encore une des raisons pour lesquelles on invite les gens à communiquer avec nous pour voir là, quels sont les critères rencontrés par leur lieu de vote. Puis comme je vous le disais, on a des largeurs de cadre de porte, des pentes, on est capable de chiffrer le côté à pic ou non de la pente. Donc on a des renseignements très précis qu'on pourra fournir aux électeurs. En cas de besoin, on peut voter dans un autre lieu de vote.
C'était ma question qui me venait spontanément à l'esprit. Si, après toutes ces démarches, pour une raison quelconque, le bureau de vote où je devais me présenter n'est pas accessible, il est possible de changer.
Absolument. Donc, en communiquant avec le directeur du scrutin de sa circonscription, en lui exposant justement les contraintes qu'on a, il va pouvoir nous permettre d'aller voter dans un autre lieu de vote. Donc, ça, c'est une option à savoir pour le 3 octobre. Il y a aussi d'autres façons. Comme je vous disais, l'ensemble des lieux de vote par anticipation sont accessibles. L'ensemble des bureaux de nos directeurs du scrutin, où il est possible de voter à certains moments, sont aussi accessibles. On a d'autres options aussi, par exemple, le vote à domicile.
Oui.
Et il y a différents aussi, c'est moins connu, mais il y a différentes options de vote. Par exemple, on a des équipes de vote qui se déplacent dans les centres de réadaptation, les centres hospitaliers, et on peut même demander à voter là, à sa chambre ou à son appartement si on est dans une résidence privée pour aînés, même s'il y a, par exemple, un bureau de vote dans l'aire commune. Si on n'est pas capable de se rendre au bureau de vote, c'est tout à fait possible de demander à l'équipe de venir à la chambre ou à l'appartement une fois le vote dans l'aire commune terminé. Là.
Donc, il est possible de voter de plusieurs manières, parce que c'est sûr qu'on connaît le jour du scrutin, c'est simple. Le vote par anticipation, où là encore, il faut se présenter à une date. Je pense que le vote par anticipation, cette année, c'est les 25 et 26 septembre.
Absolument, oui. Un dimanche, c'est lundi.
Exact. Mais là, même si cela s'avérait impossible, il y a encore d'autres solutions. Donc, le vote à domicile. Est-ce qu'on peut faire un vote postal? Est-ce que ces choses-là existent?
Bien, en fait, le vote postal est quand même limité à des groupes restreints d'électeurs.
D'accord.
Mais dans le contexte actuel où la transmission de la COVID est toujours présente, il y a des groupes d'électeurs qui peuvent voter par la poste. Et parmi ceux-ci, les personnes qui sont plus à risque de développer des complications en cas de contamination à la COVID en raison de leur état de santé. Donc, les personnes atteintes de maladies chroniques ou celles qui ont un système immunitaire affaibli peuvent demander à voter par la poste. À ce moment-là, on a une application sur notre site web pour faire cette demande d'inscription-là au vote par la poste, mais on peut aussi le faire tout simplement en appelant Élections Québec. Et la trousse de vote donc va être envoyée, les gens ont jusqu'au 29 septembre pour s'y inscrire.
Jusqu'au 27?
Le 29 septembre.
29, d'accord. C'est quand même assez près du jour du scrutin parce que, évidemment, on peut penser que si on y pense le 2 octobre au soir, là, ce sera trop tard. Il faut être capable
oui,
de...
Oui, effectivement. Puis, je tiens quand même à dire, par contre, les consignes sont un peu différentes. Il y a aussi les gens qui vont être atteints de la COVID qui, eux, vont pouvoir demander à voter par la poste jusqu'au jour même des élections.
D'accord.
Donc, à ce moment-là, le 3 octobre, bien sûr, si on est en isolement, on ne va pas récupérer sa trousse de vote soi-même. On désigne un proche, un membre de la famille, un ami, pour aller récupérer la trousse de vote pour nous. Et ce sera possible, donc, le jour même des élections, en autant qu'on ait rapporté notre bulletin de vote rempli pour 20 heures, heure de fermeture des bureaux de vote. Ça fonctionne.
Les gens qui travaillent dans les bureaux de scrutin, est-ce qu'ils reçoivent une formation un peu comment accueillir une personne, par exemple, qui a... un déficit visuel ou auditif. Est-ce que les gens ont une formation, savoir comment repérer ou être attentif et en même temps bien communiquer avec quelqu'un qui peut avoir des difficultés de communication, que ce soit visuel, auditif ou autre?
Oui, ça fait partie des éléments d'information qu'on fournit aux membres du personnel électoral. Il faut quand même garder en tête que on recrute plus de 50 000 personnes
exact.
Pour la journée des élections. Des fois, ça va très vite. Il y a une formation qui est suivie. Ces renseignements-là sont donnés. Mais je pense que l'idéal est de s'assurer de bien exprimer ses besoins et d'exprimer l'aide dont on a besoin pour s'assurer de la recevoir. Mais oui, ces gens-là sont sensibilisés. Puis, comme je vous disais, on sont au fait de la trousse d'accessibilité qui est disponible. Quant au fait des façons de faire, si on accompagne une personne pour marquer son bulletin de vote, comment le faire correctement. Donc, ce sont des choses, effectivement, qu'on fournit.
Et à chaque bureau de vote, il doit y avoir comme quelqu'un qui supervise toute l'opération, quelqu'un qui voit la bonne marche au bon déroulement de la journée. Alors, en dernière instance, on peut demander de l'aide à la personne qui supervise le travail cette journée-là dans le bureau.
Absolument. Donc, à chaque table de vote, en fait, ce sont le scrutateur qui est derrière la table de vote peut nous aider à marquer son bulletin de vote. Et à ce moment-là, il y a toujours aussi le secrétaire qui surveille le déroulement pour s'assurer que tout est fait correctement. Puis, dans chaque lieu de vote, il y a une personne qui est responsable du bon déroulement, qui est là pour donner des renseignements aussi aux gens qu'on appelle dans notre jargon le primo. Donc, cette personne-là également est là pour venir en aide aux gens, les renseigner, s'assurer que tout se déroule rondement.
Bien, c'est super. Il ne nous reste plus qu'à se faire une idée, se faire une tête. Voilà.
Oui, absolument.
et exercer notre droit de démocratique d'aller voter. Et après ça, on aura, participé pleinement à la vie de la société. Bien, Madame Saint-Arnaud de Relais, je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie.
Et on espère que les gens pourront... passer
voter
par le site, téléphoner,
oui.
Obtenir tous les renseignements dont ils ont besoin et voter en grand nombre. Le taux de participation, c'est très important pour la santé d'une société. Merci.
Absolument. Juste en terminant, je voudrais rectifier. Tout à l'heure, j'ai dit que les gens qui avaient un système immunitaire affaibli ou qui avaient des maladies chroniques pouvaient voter par la poste. Ils devaient s'inscrire avant le 29 septembre. C'est le 25 septembre, la date
25.
Limite pour le faire, 17 heures. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous êtes dans cette situation-là.
D'accord, le 25 septembre. Merci. Merci beaucoup, madame.
Bonne journée, bye.
aux premières notes du pont musical, je pensais que c'était la chanson thème de Rocky, Eye of the Tiger. Il me semble les premières notes, là, je voyais un type baraqué qui courait en haut d'un escalier. Voilà. on est maintenant en termes de découverte médicale. L'actualité se bouscule chaque semaine. Des nouvelles vraiment prometteuses, des découvertes, des avancées nous permettent de penser qu'un jour, bien des maux et bien des situations difficiles à vivre auront trouvé une solution. Et pour nous aider à suivre l'actualité scientifique, nous avons le plaisir cette année encore d'avoir notre compagnie Monsieur Philippe Ducharme. Bonjour Philippe, comment allez-vous?
Bonjour François, ça va bien?
Puis ça va?
Merci bien pour l'invitation.
Hein? Ah ben ça me fait plaisir. Et on va se reparler presque chaque mois, c'est toute la saison. Et aujourd'hui, de quoi parle-t-on?
Ben écoutez, je commence d'abord par un sujet qui se lit comme suit. Hein. De faibles courants électriques au cerveau de personnes âgées pour contrer les pertes de mémoire.
Oh.
C'est une conclusion à laquelle sont en venus des chercheurs de l'Université de Boston, des résultats qui ont été quand même publiés dans une revue très prestigieuse. On parle ici de Nature Neuroscience. Évidemment, c'est une conclusion qui offre quand même beaucoup d'espoir pour les personnes vieillissantes, mais aussi les personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative. Avant de vous présenter les résultats, qu'est-ce que la mémoire?
Oui, voilà, parce que souvent, on fait une distinction entre la mémoire courte et à court terme ou à long terme. On se souvient d'épisodes de notre enfance, mais pas du nom de la personne qu'on a rencontrée tout à l'heure.
Effectivement. Fait que la mémoire, on peut la décortiquer en 5 types. La mémoire de travail, qui est la mémoire à court terme, c'est la mémoire qui nous permet de retenir de l'information pendant qu'on réalise une tâche ou une activité. À l'opposé, il y a la mémoire sémantique et je vais aussi parler de mémoire épisodique. Ce sont deux types de mémoire associés plutôt au long terme. Donc, la mémoire sémantique, c'est celle qui nous permet d'acquérir un langage ou, par exemple, d'acquérir les connaissances que nous avons, que nous voyons tout au cours de notre vie. La mémoire épisodique, c'est celle des moments vécus. C'est la mémoire qui nous permet de se situer également dans le temps. Il y a deux autres types de mémoire. La mémoire procédurale, c'est la mémoire des automatismes. Mm-hmm. Donc, le fait de marcher, de conduire une voiture ou de jouer un instrument de musique. Donc, ça fait appel à cette mémoire-là. Et finalement, la mémoire perceptive, donc la mémoire des sens.
Ah ben un peu comme Proust, là, où chacun de nous, on se souvient de l'odeur de la tarte aux pommes.
Voilà.
Voilà. Moi, l'odeur du gazon fraîchement coupé, ça me retourne en enfance parce que quand j'étais petit, il y avait beaucoup, beaucoup de pelouse autour de chez nous. Et l'odeur du gazon fraîchement coupé. Et j'ajouterais même l'odeur de la tondeuse à gazon à essence.
Ah oui.
Oui, ça me replonge dans mon enfance. C'est un moment poustien. Mais on revient à notre sujet de stimulation électrique. On peut donc éviter une détérioration des facultés de mémoire.
Voilà, exactement. Donc, l'étude, en gros, ils ont recruté 150 participants, des gens âgés entre 65 et 88 ans. Ces personnes-là ont été soumises à une stimulation avec de faibles courants électriques, là, je veux préciser, là, ce sont des faibles courants, là, c'est pas de l'électrocution ici. Là.
Ouais.
Les gens avaient des électrodes au niveau du cuir chevelu et pendant la stimulation, les gens devaient lire des listes de mots à haute voix puis afin de les mémoriser. Et cette stimulation-là s'est produite durant 4 jours consécutifs. Il y a deux constats qui sont ressortis de ça. D'abord, les stimulation à haute fréquence, on parle ici de 60 Hz, dirigée spécifiquement au niveau du cortex, bon, cortex préfrontal dorsolatéral. On va faire ça simple, là, c'est au niveau de l'avant sur les côtés du cerveau.
Mm-hmm.
Donc, ce type de stimulation-là permet aux gens d'avoir une... Ils ont remarqué donc que les gens avaient une meilleure capacité de se souvenir des premiers mots. Donc, ça suggère donc une amélioration de la mémoire à long terme. Deuxièmement, des stimulations à basse fréquence cette fois-ci. Donc, on parle de 4 Hz environ au niveau du lobe pariétal inférieur. Ça, c'est tout près des oreilles, au niveau du cerveau. Donc, ces stimulations-là ont donné une meilleure capacité de se souvenir des derniers mots. Donc, on parle donc des mots les plus récents.
La mémoire de travail à court terme.
Voilà, exactement, mémoire à court terme. Donc, essentiellement, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que au niveau du cerveau vieillissant, Bien, la plasticité neuronale peut se moduler et va se moduler de manière sélective et durable. J'ai oublié de mentionner, les effets ont été perçus pendant plus d'un mois. Donc, c'est là où ça devient intéressant. Le cerveau, ben, on peut le modifier au niveau de ses connexions neuronales et bien sûr, le cerveau vieillissant et donc limiter peut-être les pertes de mémoire. Et évidemment, pour des gens qui souffrent de maladies neurodégénératives où justement il y a une perte de mémoire parfois associée à certaines maladies comme l'Alzheimer, ben, ça devient peut-être une avenue intéressante pour ces gens-là éventuellement.
Oui, tout à fait. Et c'est certainement, c'est angoissant quand on commence à perdre nos facultés cognitives et on est conscient qu'on est en train de glisser un peu. Alors, s'il y a des solutions, cette découverte-là peut amener éventuellement un traitement pratique et faisable.
On va
se déplacer du laboratoire jusqu'à l'aquarium.
Oui, c'est très bien dit. En fait, pour introduire ce sujet-là, je vais d'abord camper le contexte, c'est-à-dire qu'on est dans le contexte des maladies cardiaques.
D'accord.
Pourquoi? Parce que c'est quand même la première cause mondiale de décès. Et au Canada, ben, il y a une personne qui décède malheureusement des suites d'une maladie cardiaque aux 5 minutes. Donc, c'est un sujet assez préoccupant. Maladie cardiaque, tout le monde pense à crise cardiaque. Évidemment, c'est une obstruction des artères du cœur. Ça entraîne donc un manque d'oxygène localisé au niveau du muscle cardiaque. Les cellules du cœur vont mourir. Et le corps, pour réagir, ben, il répare ça, mais il ne répare pas ça de la meilleure façon possible, c'est-à-dire qu'il va produire des cellules fibreuses.
Il va avoir des tissus, ce qu'ils appellent des tissus cicatriciels ou des choses qui vont être moins souples
et
à la longue, vont créer d'autres obstructions.
Exactement. Et là, on a des problèmes d'insuffisance cardiaque. Et on arrive à l'aquarium, justement. Évidemment, dans la recherche, il y a plusieurs modèles animaux qui sont intéressants pour étudier des problématiques. Je vous parle du poisson zèbre, un tout petit poisson qu'on peut s'acheter à l'animalerie, ce poisson brillant avec des petites lignes bleues sur le côté du corps. Eh bien, ce poisson-là, il a un super pouvoir de régénérer son cœur après une lésion. Donc, après 3 mois, le cœur revient à un état tout à fait normal. Et c'est quand même fantastique. Évidemment, les chercheurs s'intéressent à ça. On essaie de comprendre quels sont les secrets.
Pourquoi lui et pas les autres?
Parce que nous,
c'est assez unique quand même.
On n'est pas capable. Ce qu'on sait déjà en partant, c'est que quand il y a une lésion au niveau du cœur de ces poissons-là, les vaisseaux sanguins qui alimentent le cœur vont produire un facteur de croissance. Je vous le nomme, le VEGF, c'est son acronyme. Ce facteur de croissance-là, il va stimuler en partie la revascularisation, donc refaire des petits vaisseaux sanguins là où il y a eu une blessure, mais surtout, et là ça devient intéressant, bien, c'est le VEGF qui va stimuler la prolifération, non pas de cellules fibreuses, mais de cellules cardiaques.
Les cellules qui sont identiques à celles qui ont été, qui ont été meurtries, donc identiques au reste du cœur qui est encore sain.
Bon. Et voilà, tout à fait, exactement. Donc, je vous amène dans des travaux d'un chercheur de l'Université de Montréal, associé également au CHU Sainte-Justine, le docteur Ruben Marin-Jouez. C'est un chercheur qui s'intéresse aux mécanismes là, qui sont en jeu dans cette réparation-là, dans cette prolifération-là des cellules cardiaques. Ce que leurs travaux récemment ont démontré, c'est que quand le VEGF, le facteur dont j'ai parlé il y a quelques instants, bien, quand il est produit, il entraîne aussi l'expression, la production de 2 autres molécules, 2 autres protéines. D'abord, la première, MLIN2A, c'est le nom qu'on lui a donné. Cette protéine-là, une fois qu'elle est produite, bien, elle entraîne la production d'un autre, qui est CXC18A.
C'est son nom. C'est un challenge pour ma mémoire à court terme, là. CXCR18A. Mais en fait, ce qui compte, qui est important de retenir. Il a fallu étudier beaucoup, beaucoup d'êtres vivants avant de tomber sur le poisson zèbre, là, parce que c'était peut-être pas en haut de la liste le premier jour.
Non,
et pas juste parce que c'est zèbre et non pas un albatros. Mais aussi, est-ce qu'on peut penser qu'il y ait une application pratique peut être répliquée chez l'humain?
L'objectif dans tout ça, là, ultimement, c'est de trouver peut-être une recette, les ingrédients qu'il faudrait pour peut-être être capable de stimuler chez l'humain la production de cellules cardiaques suivant un infarctus ou un dommage au niveau cardiaque. On s'entend, là, on est dans des résultats préliminaires.
On est loin,
ils sont très
c'est
prometteurs.
Sûr.
Et plus on en saura sur le cocktail de molécules qui permet de stimuler ces cellules-là à être produites, les cellules cardiaques, ben ça ouvre de plus en plus des possibilités au niveau de la recherche pour amener quelque chose de thérapeutique à terme.
Ça, c'est justement, ça donne le goût de suivre l'affaire parce que les maladies cardiaques, on n'en meurt pas nécessairement, mais elles peuvent avoir des séquelles,
ben oui.
des séquelles terribles. Pour terminer rapidement, les lentilles oui. de réalité augmentée, qui est une technologie qui commence à se commercialiser beaucoup,
oui.
Ça peut avoir des applications pour les personnes qui ont un handicap visuel.
Ben voilà, c'est ce qui m'a vraiment attiré là-dedans, c'est parce qu'on parle de réalité augmentée. La réalité augmentée, on connaît ça un peu là, dans notre vie quotidienne. Nos appareils intelligents permettent, si je prends par exemple l'appareil qui nous permet de se donner des petites oreilles de chat et un petit nez de chat.
Ah oui, oui, qu'on ajoute à nos propres images, oui, tout à fait.
Donc ça, c'est l'exemple très commun. Moi, ce que je veux simplement dire ici, c'est que la prouesse technologique, c'est d'avoir rendu possible cette technologie-là, au niveau d'une lentille. Donc, quelqu'un porte une lentille sur l'œil, eh bien, il y a une mini caméra, là, c'est très petit, 0,5 mm à peine, qui peut projeter de l'information donc numérique, et la personne voit cette information-là dans son environnement réel. Et donc, cette petite technologie-là est équipée avec une petite batterie pour lui fournir l'énergie, des capteurs pour être capable de faire en sorte que ce qui va être projeté devant nous, finalement, va suivre notre regard. Si je tourne les yeux, l'information va suivre également.
Okay.
C'est une application qui est très intéressante côté divertissement, mais ce que la compagnie qui a développé ça, ce qu'elle souhaite d'abord et avant tout, c'est la rendre utile pour des gens qui ont des déficiences visuelles, évidemment. Faire en sorte que ces personnes-là puissent être un peu plus autonomes, puissent consulter de l'information.
Ça, c'est formidable, Philippe. On va explorer ce sujet-là plus avant. Pour nous, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve peut-être dans un mois pour parler d'actualités scientifiques. On fait une petite pause et au retour, on parle politique, Parti conservateur du Québec, Parti libéral du Québec. Quelles sont les promesses électorales? Qu'est-ce qui est prévu dans leur programme pour les personnes en situation d'handicap? À tout à l'heure.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Rebonjour. Nous avons en notre compagnie M. François Gagnon. M. Gagnon est candidat pour le Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Huntingdon. Bonjour, M. Gagnon.
Bonjour, vous allez bien?
Ça va super, je vous remercie beaucoup. Évidemment toutes sortes de nouvelles qui nous assaillent chaque jour en période électorale et ça nous importe beaucoup ici à Canal M de faire le tri là-dedans et de se préoccuper un peu plus de ce que les partis politiques ont à proposer, particulièrement concernant les personnes en situation d'handicap ou qui ont d'autres limitations fonctionnelles. Et je pense qu'à l'intérieur du Parti conservateur du Québec, M. Gagnon, vous en êtes un peu le porte-parole.
Porte-parole, il n'y a personne qui m'a officiellement désigné pour être un porte-parole, là. Mais c'est parce que moi, comme accidenté de la route depuis 1978, au début de ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, moi j'ai œuvré dans le domaine communautaire, puis ça allait avec ma condition physique là, de paraplégique. Moi j'ai œuvré de 1980 à 1987 dans le domaine communautaire en tentant de faire évoluer la situation des personnes que vous mentionnez là, en situation d'handicap. Et vous avouerez que ça a été... En tout cas, nous, on était dans ce qu'on appelait COPO à l'époque. Ça, c'était la Coalition of Disabled Persons of Handicap à Winnipeg. Moi, j'ai fait le Canada au complet là, pendant quelques années. Puis ça a évolué un peu plus en Colombie-Britannique, en Ontario, dans certaines provinces canadiennes. Mais nous, au Québec, je peux vous dire que personnellement, là, j'ai vu de l'évolution au niveau des changements de mentalité, parce que je m'en rends compte au quotidien, parce que veux pas, quand on est dans une situation comme celle-là, on devient fin observateur.
Exact.
Mais Mais le problème au Québec, présentement, là, c'est vraiment au niveau légal. Moi, au tout début, je me promenais avec un, quand j'étais dans le domaine communautaire, je me promenais avec un diplôme d'études collégiales. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, François, je te vois faire des présentations. Moi, je déposais des mémoires, je les écrivais, je te vois faire des présentations. Puis, il a comme planté le germe de l'idée d'aller faire mon cours en droit, mon baccalauréat en droit.
D'accord.
Avec le barreau du Québec par la suite. Puis là, ben, j'ai perdu comme ma dernière illusion, là, quand j'ai,
oui.
en droit constitutionnel, j'ai fait un travail de session, là, sur ce qu'on appelait à l'époque le projet de loi 9, mais qui est devenu la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées du Québec. Puis on voit dans les débats parlementaires, ça a été adopté le 23 juin 78, je vous dirais l'heure, là, 23h59, c'est à peu près le dernier, pas appel du rôle, mais c'est à peu près le dernier au feuilleton.
Oui, 23 juin, c'est juste avant la clôture pour l'été, là.
Oui, c'est
tout à fait.
C'est ça. Ça a été adopté en vitesse. Puis en même temps, si je veux, pour la compréhension des gens, là, sur le plan juridique, là, c'est qu'on, mettons, vous avez deux pages blanches en avant de vous. La page de gauche, c'est la loi devant assurer l'exercice des droits des personnes handicapées, puis le terme est fort. Puis en vertu de cette loi-là, je devrais avoir l'assurance que mes droits sont reconnus. Puis en même temps, l'autre page blanche de droite, ben, pour faire une corrélation juridique, ils ont modifié la Charte québécoise des droits et libertés pour y inclure le motif de discrimination fondé sur le handicap ou le moyen pour pallier au
D'accord.
handicap.
Oui.
Fait que, comme ça l'était là, pour le sexe, la race et tout ça. Mais en même temps, ils ont ajouté le motif de discrimination fondé sur le handicap dans la Charte québécoise. Ils ont soustrait la loi assurant l'exercice des droits à l'article 10 de la Charte, qui était ça, là, les motifs de discrimination.
Oh! Enfin, donc, la main gauche a défait ce que la main droite avait fait.
Exactement. Ce qu'on appelle, les gens connaissent peut-être plus la clause non-obstant, mais en français, on appelle ça une clause dérogatoire.
Exact.
Et à mon sens, sur le plan juridique, quand on adopte une clause dérogatoire, c'est quasiment un aveu. Parce que là, ce qu'on vient de dire, c'est que malgré la SAP,
on le fera pas.
Ouais, c'est ça. Fait que, puis c'était à peu près dans tous les secteurs d'activité de la vie quotidienne
D'accord.
des personnes.
Et dans ce cadre-là, bien, on comprend davantage votre intérêt d'être en politique active.
Ben, regardez, moi, je vais vous avouer là, qu'au mois de juin cette année, je m'en allais de nulle part. Moi, j'ai employé municipal, j'ai été directeur général municipal pendant près de 9 ans. Après ça, j'ai démissionné. Moi, quand c'est le tour de la question, il faut se passer à autre chose. Fait que, là, je suis devenu greffier municipal pour la municipalité de Dormiston. Je ne sais pas si vous connaissez le coin. Là,
ouais. Pour placer tout le monde d'un point de vue géographique, Dormiston, Huntington, c'est vraiment la portion extrême sud-ouest du Québec.
Oui. On lance...
Entre le fleuve et la frontière américaine.
On longe toute la frontière américaine.
C'est ça. Le long de la frontière américaine, au sud du fleuve Saint-Laurent, et vraiment du côté le plus à l'ouest.
Ouais. Ouais, au sud-ouest du Québec. Des fois, les gens confondent. Ils pensent que le haut Saint-Laurent, parce qu'on a au Québec le bas Saint-Laurent, qui est de la région de Rimouski, Kamouraska, puis jusqu'à...
Ouais. Bon, c'est pas le haut sur la carte, c'est que le fleuve coule, donc on parle de l'amont. Voilà.
Oui, c'est ça. Fait que moi, quand au mois de juin, je m'en allais nulle part, puis à un moment donné, j'ai été sollicité par quelqu'un du Parti conservateur. J'ai rencontré Éric Duhaime, qui est le chef du parti, je pense c'est le en tout cas deux semaines après. Là. Puis moi, c'est de même l'envie. Là. Avant de dire oui, il a fallu que je regarde le programme du parti. Moi, je suis très, très, très à l'aise avec le programme du parti, mais honnêtement. Par rapport, mais il y a quand même 5 grands dossiers qui sont développés, mais par rapport à la situation que je vis depuis 1978, là, on est passé du Parti québécois au Parti libéral, au Parti québécois au Parti libéral. On peut toutes les prendre, là, jusqu'à 2018 ou la CAQ. Moi, j'ai jamais rien vu dans une élection provinciale ou fédérale où la question des personnes handicapées, des personnes vivant avec un handicap, peu importe comment on les appelle. Moi, je ne devrais pas dire ça. Je vais vous avouer que j'ai jamais rien vu. Sauf que quand j'ai rencontré M. Duhaime, on a parlé de politique, on a causé ensemble plus qu'une heure. On a joué ensemble, puis moi j'ai senti une très très grande ouverture, puis j'ai pas senti, comme observateur là, que le fauteuil roulant, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, pour moi c'était très 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 favorable, mais dans le programme, je vous avoue honnêtement qu'il y a rien, mais il y a rien non plus dans tous les partis là qui sont nos adversaires. Puis si on s'en allait dans une élection fédérale, il n'y aurait probablement rien non plus. Moi, je le dis, ça vient de faire 44 ans au mois de juillet.
Oui.
Sauf que mon implication politique vise deux choses. Un, je suis en parfait accord avec le programme et la plateforme du Parti conservateur du Québec. Et deux, pour moi, c'est comme une dernière tentative. Si je suis élu, je me dis, je pense que je suis capable d'être un bon porte-parole auprès de l'Assemblée nationale. Puis moi, je vois ce dossier-là un peu comme l'aide médicale à mourir. Je vois pas comment un parti politique pourrait s'opposer à des gens là qui sont exclus. Là, on parle vraiment d'exclusion là, depuis 1978 ou à peu près. Il y a des choses qui ont pris forme là, dans les stationnements, dans certaines choses. Mais ça, c'est comme c'est comme un écran de fumée, là, parce que fondamentalement, au niveau
En advenant votre élection, ça va être votre cheval de bataille. Là.
Mon cheval de bataille, mais ça va être comme, je dirais, le côté subsidiaire là, du fait de ma présentation politique. Moi, je pense d'être capable de défendre tous les dossiers et tout ce qui est dans la plateforme du parti. Mais en plus, je fais une dernière tentative, fait que j'aimerais ça entrer à l'intérieur pour représenter non seulement les personnes qui sont handicapées, qui vivent la situation par elles-mêmes. Moi, je ne sais pas comment les gens sont arrivés dans le décor. Je n'ai pas posé de questions. Mais présentement, j'ai comme deux beaux couples qui ont des enfants avec une personne que la jeune n'a pas de faculté de parole. Elle a le syndrome de Rett. Je ne connaissais pas ça avant qu'on me l'explique brièvement. Après ça, il y a un autre couple que deux enfants, dystrophie musculaire, puis l'autre, pas sûr, là, je pense que c'est de l'autisme. Après ça, il y a une dame, ça fait 5 ans, qui tente de prôner ce qu'on prônait, nous, au début des années 80, Mme Boyer, qui est à Saint-Rémy. Moi, je pensais que ça avait pris forme, mais j'ai su dernièrement que ce qu'elle proposait, c'était un genre de centre de vie autonome. Nous, c'était... vous savez, personne handicapée, on est médicalisé. On est...
Tout à fait.
Associé au modèle médical avec tout ce que ça comporte. Fait que dans ce sens-là, le programme du parti dit, ben, tassez-vous un peu, là, puis laissez les personnes respirer, puis être capables de prendre leurs propres décisions. Fait que nous, au début des années 80, ce qu'on demandait, c'est qu'au lieu que la personne soit dépendante du système avec tous les professionnels, ben, remettez-lui une allocation mensuelle. La personne va acheter ses propres services, puis elle n'aura pas besoin d'attendre après le CLSC le 15 juillet, de dire, on arrive, puis on vient de coucher à 6 heures le soir pendant qu'il fait 30 degrés. Moi, j'ai été chanceux d'avoir une fracture à la colonne dorsale, parce que dans la vie, je ne comprends pas les assureurs qui indemnisent plus des jambes que des bras, parce que toute l'autonomie réside dans les bras. Si j'avais pas mes bras, là, je n'aurais pas réalisé, parce que c'est comme...
Monsieur Gagnon, je suis heureux qu'on ait eu l'occasion de se parler de tout ça, parce que j'étais curieux de voir comment vous alliez transporter vos préoccupations personnel et toute votre implication communautaire toutes ces années-là dans l'arène politique. Le comté d'Huntingdon, en 2018, là, ça a été par 700 votes à la CAQ. La deuxième place, c'était le Parti libéral. Évidemment, le Parti conservateur du Québec n'existait pas sur l'arène électorale pour la peine à ce moment-là. Donc, ça va être une lutte qui va être assez chaude dans Huntingdon. On va suivre ça de près. Puis,
En 2018, là, encore une fois, la population du Québec n'a pas voté pour la CAQ, elle a voté contre le Parti libéral. Là, nous, on pense, parce qu'en un an, l'élan qui a été pris est quand même phénoménal, avec une petite équipe, là, je vous dirais, pour le cacher, là, il nous manque des gens, mais la montée est fulgurante. Puis là, j'espère que pour une des rares fois, les gens ne voteront pas contre, mais vont voter pour, parce que moi, je sens qu'il y a une possibilité pour du véritable changement. Autant au niveau de la bureaucratie, là, limiter la bureaucratie là, à tous les niveaux, que pour l'intégration des personnes handicapées dans la société une fois pour toutes. Puis moi, mon but, ben, c'est, un, de représenter le parti et les citoyens de la circonscription dans tous les dossiers qui les occupent. Mais en plus, je fais une dernière tentative, parce que je suis pas en début de carrière, là, plus vers la fin qu'au début. Et moi, ça me tient à cœur. Puis si jamais je ne réussis pas, ben, ça va être un échec. Je suis capable de vivre avec les échecs, mais je suis très mauvais perdant. Fait que là, moi, les gens qui me font confiance, je parle des parents avec les enfants, Mme Boyer, puis il y en a plein, là. Il y en a partout au Québec. On parle d'une population. Il y a 1 million de vignettes de stationnement qui ont été mises au Québec.
Tout à fait. Ah, on est au courant de ces chiffres-là, M. Gagnon. Tout à fait. Oui. Ben, je vous remercie. C'est tout le temps dont on dispose. Et bien, on suivra la lutte dans Huntingdon avec intérêt.
Ça fait plaisir de vous en parler, puis si vous allez revenir, venez-vous pas.
Excellent, merci.
Merci, bonjour.
Bonjour, nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Mme Jennifer Macaroni. Vous étiez la députée de Westmount-Saint-Louis, Mme Macaroni, et vous êtes évidemment maintenant candidate à nouveau dans Westmount-Saint-Louis pour le Parti libéral du Québec. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien. Je
occupée,
suis
c'est sûr,
avec
ces jours-ci.
Vous.
Oui.
Ben oui, c'est de la belle température, ça fait du bien quand on fait du porte-à-porte. C'est sûr, il y a un impact sur notre humeur aussi quand il fait beau puis ensoleillé en septembre.
Vous êtes au sein du Parti libéral, la porte-parole pour les questions de famille, la communauté LGBTQI2, pour les clientèles exclues dans un sens plus large, donc les personnes qui vivent avec un handicap ou avec des troubles du spectre de l'autisme. Donc, ce sont des questions qui vous tiennent à cœur, que vous avez déjà eu l'occasion de défendre parce que vous êtes quand même député sortant. Vous avez une expérience à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que le Parti libéral propose pour faire une différence?
Bien, premièrement, je veux dire que oui, ces dossiers-là me tiennent à cœur parce que, comme probablement vous êtes au courant, moi, je suis maman de 2 enfants qui sont maintenant majeurs, qui vivent avec le spectre de l'autisme. Alors, quand j'ai demandé d'ouvrir ce type de dossier, c'était pour amener de la visibilité à la cause des personnes qui vivent avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme parce qu'on voulait changer le monde pour le mieux. Je rêve d'un monde inclusif. Puis pendant les 4 dernières années, j'ai déposé 5 mandats d'initiative pour changer les choses pour ces personnes. Malheureusement, le gouvernement a voté contre chaque mandat d'initiative. Plusieurs amendements aussi, hein, comme ils sont parlementaires.
D'accord.
Alors, j'ai hâte d'avoir un autre 4 ans pour être à mesure de continuer à me battre pour la cause, mais plus précisément pour répondre à votre question. Puis ça, ça fait partie aussi des choses que j'ai proposées pendant
oui,
les quatre dernières années
peut penser
au nom de ma formation politique.
Oui, je comprends. Si ça se retrouve dans le programme, c'est certainement qu'au moment des assemblées à l'interne, vous avez eu votre mot à dire.
Oui, puis avec une grande fierté, parce que je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises aussi, que je suis tannée que les gens, mettons comme maman, de me mettre à genoux devant, exemple, un employeur pour dire « s'il vous plaît, engagez mon enfant ». Car vous avez besoin de mon enfant plus que mon enfant maintenant a besoin de vous, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre. Alors, c'est pour ça que je suis vraiment fière et contente que dans notre plateforme électorale, une des choses que nous parlions, c'est l'accès au marché de travail pour les personnes qui vivent avec un handicap ou avec du spectre de l'autisme ou autre, parce que ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un accompagnement comme mesure de subvention pour l'employeur qui dure 3 mois de temps, par exemple. Comme ça, l'employeur va pouvoir intégrer comme il faut un vrai onboarding pour la personne concernée, puis ça risque d'aller bien de les deux côtés. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences pour mon fils qui a essayé d'accéder au marché du travail et rêve de travailler chez Maxi juste pour mettre des canettes sur des tablettes. Ça n'a pas bien fonctionné. C'est la faute de plusieurs personnes à l'intérieur de ça, mais c'est parce que majoritairement, il faut changer la façon qu'on voit les choses
et fait.
Le travail.
Oui, votre garçon, il a 21 ans maintenant.
Oui, puis je dois vous dire, c'est pas parce qu'on est député à l'Assemblée nationale que les choses vont mieux pour nous comme parents quand on fait la transition de mineur à majeur. J'ai appris beaucoup de choses avec mes enfants en ce qui concerne le réseau de santé et services sociaux, le marché d'emploi, solidarité sociale, et je vous dis que ça m'a encore donné de l'espoir de vouloir changer les choses, parce que c'est dur, c'est difficile, c'est très difficile pour lui. Je suis à fleur de peau chaque fois que je pense à ça, parce que mes enfants ont un désir de contribuer, ont un désir d'être inclus et acceptés. Puis une telle mesure, pour moi, c'est primordial et très important.
Parce que on parlait de votre fils, mais votre fille, Bianca, a 19 ans. Alors, les deux vivent la réalité de passer de mineur à majeur. Et souvent, c'est là qu'il y a un fossé dans les programmes.
Bien, c'est parce que rendu à 18 ans, comme vous savez, puis probablement les gens qui nous écoutent en ondes, magiquement, nous n'avons plus de diagnostic. Alors, il faut recommencer tous les processus de paperasse, de remplir les documents pour le gouvernement, puis aussi de faire connaître et favoriser la cause auprès de nos institutions d'éducation. Parce qu'on n'a pas un réseau d'éducation qui est inclusif au début. Je comprends que c'est peut-être un débat pour une autre journée. Peut-être si j'ai de la chance d'être réélue, je reviendrai pour parler de ma vision à ce qui concerne cette inclusion. Parce que rendu 18 ans, c'est malheureux, mais maintenant, ces personnes sont majeures, puis on ne sait pas quoi faire avec eux. T'sais, on les voit au coin de rue en train de quêter pour l'argent. Puis les gens ne les regardent même pas dans les yeux. Il faut arrêter ça.
Dans le programme du Parti libéral, il est question d'un revenu de base dès l'âge de 18 ans, justement pour les enfants handicapés qui sont maintenant à ce moment-là majeurs et qui peuvent avoir des difficultés à l'emploi.
Oui, exactement. Parce que comme nous le savons déjà, puis la vérificatrice générale, elle aussi, elle a soulevé à l'intérieur des 4 dernières années que c'est un gros problème que nous avons dans notre programme, que si on a une personne handicapée qui travaille au-dessus de, par exemple, 15 heures par semaine, mais il sera pénalisé. Fait que ça, on va mettre ça de côté. On va recommencer à nouveau pour faire un vrai accompagnement de ces personnes parce que, un, ils devront être en mesure de gagner leur vie et pas tout le temps dans des emplois où on travaille dans les entrepôts où on ne les voit pas parce qu'ils sont cachés. Dans les emplois où ils vont contribuer d'une façon que eux ils souhaitent, puis que eux ils font les choix, parce que l'autonomie, c'est primordial puis c'est très important. Mais ils font face à beaucoup de difficultés. J'étais bouleversée de savoir que Québec est le seul province au territoire au Canada où les personnes aveugles, par exemple, ou les personnes handicapées qui n'ont jamais un permis de conduire, n'ont pas une carte d'identité avec leur adresse. Fait que si on veut ouvrir un compte de banque, on veut acheter une maison, bien, on n'a pas de pièce d'identité. Mais on est le seul province au territoire, au Canada, qui n'ont pas ça. Fait que ça aussi, c'est pour ça que ça fait partie de notre plateforme électorale, parce que ça ne prend pas une loi pour le faire. Ça prend juste la volonté puis un règlement. Ça devrait être facile. Je l'ai proposé, ça fait 3 ans déjà, parce que c'est tous les organismes qui sont venus voir, puis c'est eux qui m'ont appris ceci. Je dis, mais voyons donc, c'est ridicule. Oui. Parce que ce serait le cas de mes enfants. Aussi, que je dis, on a besoin de changer ça. Non seulement pour eux, mais aussi pour les aînés qui, à un moment donné, là, ils n'auront plus un permis de conduire, mais on va avoir besoin de ça. Désolée, je parle beaucoup, je suis très passionnée. Allez,
ben, c'est vous avez des questions. Tout à fait. Je comprends exactement l'exemple que vous venez de donner, parce que je ne conduis pas depuis 40 ans et... chaque fois qu'on me demande un permis de conduire, puis je dis que j'en ai pas, il y a toujours comme un petit silence qui laisse planer un doute sur ma compétence dans d'autres domaines. Voilà. Entre autres, je pense, dans le programme du Parti libéral, il y a beaucoup question justement d'aide pour ce qui est de tout l'aspect de la santé mentale.
Oui, la santé mentale, nous, ce que nous proposons, c'est que ça soit un accès universel et couvert par l'assurance médicale, avec notre fameuse carte soleil, parce que présentement, ce n'est pas le cas et c'est malheureux, mais les gens, ça crée un système de deux tracks. Les gens qui ont les moyens, mettons, pour aller au privé, et les gens qui n'ont pas les moyens, puis ils attendent, puis ils attendent, puis ils attendent auprès du réseau public. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit régularisé et que tout le monde aura un accès. Parce que les problèmes de santé mentale, je pense qu'on est rendu 2022, les gens en parlent beaucoup plus. C'est plus stigmatisé la façon que c'était dans le passé. Puis quand on dit accès à des programmes ou des professionnels qui offrent des ressources de santé mentale, c'est non seulement pour mettons, les personnes qui se retrouvent en situation de handicap, mais aussi pour tous les proches aidants. Je ne suis pas gênée de vous dire que maman de 2 enfants avec des besoins particuliers qui vont vivre avec moi pour le restant de mes jours, il y a des moments où moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un, de l'aide. Les proches aidants, il faut penser aussi à eux parce qu'eux, ils vont contribuer à la cause. Fait que ça, c'est une mesure qui est primordiale et très importante. Et la pandémie nous a montré encore plus profondément notre besoin.
Tout à fait. Ça l'a mis à jour beaucoup de problèmes, puis ça l'a jeter de l'huile sur le feu, si je peux dire, ou ça a exacerbé des situations pour toutes les raisons d'isolement et d'inquiétude ou d'angoisse généralisée que la situation a provoqué. Alors, ça a été un ferment pour faire éclore encore plus de situations de santé mentale qui étaient parfois tragiques.
Oui, exactement. Puis, je pense qu'aussi, moi, ce que j'ai réalisé à travers les 4 ans comme députée, puis je considère peut-être comme une jeune députée parce que j'ai seulement un mandat derrière moi, parce que j'ai milité tellement pour des causes importantes pour moi, la cause des personnes en situation de vulnérabilité, puis ça peut être plusieurs personnes, pas nécessairement les personnes en situation de handicap, mais... ce que j'ai réalisé, c'est qu'au sein du gouvernement, c'est vraiment les 12 travaux d'Astérix pour avoir de l'aide.
Astérix ou Hercule, je ne sais pas, mais c'est certain que vous vous êtes aperçu que c'est une grosse machine, ça, c'est sûr.
Ah oui, puis ça, c'était, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est député qu'on a toutes les réponses. Et moi aussi, j'étais comme, OK, là, telle personne a besoin d'aide parce que c'est un enfant qui est expulsé, par exemple, du réseau scolaire. Ou c'est un enfant qui n'a pas pu percer et rentrer dans notre réseau de services éducatifs à la petite enfance, parce que ça aussi, c'est un enfant avec des besoins particuliers, alors on n'a pas de place pour ces personnes, ou il n'y a pas de ressources pour les personnes handicapées, adultes qui souhaitent intégrer le marché du travail. Mais pour aider ces personnes, il faut parler avec le ministère de l'Éducation, il faut parler avec le ministère de la Famille, il faut parler avec le ministère d'Emploi et Solidarité sociale. Il faut parler avec le ministère responsable des transports parce que ces personnes aussi ont accès à un transport adapté.
Oui, tout à fait,
Dieu,
oui.
C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un ministre responsable des personnes handicapées.
Oui, parce que vous parlez de... Je m'excuse, Mme Macaron, vous parlez de transport adapté, puis c'est c'est un sujet qui est très préoccupant depuis déjà plusieurs années, mais c'est encore plus aigu depuis quelques mois. Là, on voit plusieurs régions qui crient à l'aide. Le transport adapté étant en train d'imploser. Et ça, c'est pas une question qui est simple, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez qui peut être fait d'une façon pratique?
Bien, oui. Premièrement, une des choses que nous devons faire, c'est... Puis ça fait aussi partie de notre plateforme, et vous allez le voir aller à l'extérieur de ce qu'on parle en ce qui concerne les personnes en situation de vulnérabilité, c'est la rétention et le retour des travailleurs expérimentés sur le marché du travail. Parce que un des problèmes dont nous faisions face avec le transport adapté, c'est malheureux, mais dans la deuxième année de leur mandat, la CAQ a déposé une loi qui a quand même régularisé le réseau de taxis Uber, qui n'a pas favorisé les chauffeurs de taxi. Alors, ça crée une pénurie de main-d'œuvre en ce qui concerne ce marché. Puis nous savons que c'est seulement les chauffeurs de taxi qui ont une formation pour accompagner les personnes aînées, les personnes en situation de handicap. Fait qu'on a moins de chauffeurs. Fait qu'il y a beaucoup plus de responsabilités sur le dos de la ville pour fournir du transport adapté, mais on a une pénurie de chauffeurs.
Vous avez cette question-là, on l'a bien vu, bien détaillée ici. Tout à fait. Il y a 4 ans, vous avez gagné avec une majorité de 12 000. Alors, on peut penser que vous ayez peut-être encore une place à l'Assemblée nationale rendue le 3 octobre au soir. Et on verra que ça vous permettra d'avancer vos idées. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Macaron.
Merci beaucoup à vous, François.
Merci.
Bonne journée.
Après la pause, on revient avec la revue de presse avec Camille Cusset.
Sans détour avec François Beauregard.
Rebonjour, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie ma collègue Camille Cusset. Bonjour Camille, comment
Bonjour,
allez-vous?
Bonjour François, moi ça va très bien.
Ça va très bien, première de l'année. Hein? Alors un peu de papillon, mais on va y arriver tous les deux. On parle d'une présence chaque semaine. Camille, ensemble, il y a une recherche, de tout ce qui se passe dans le monde. On va faire une revue de presse,
oui.
Tout azimut, et on te donne un mandat de parcourir la planète. Là, et,
beau mandat, hein, vraiment.
Un beau mandat, c'est sûr. Et en plus, bien après ça, évidemment, de nous dire qu'est-ce que tu as pu glaner. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on va parler du déminage en Ukraine. Donc, comme vous le savez, il y a un conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie depuis le 24 février, si je ne me trompe pas. Et il y a un enjeu de déminage. En fait, les États-Unis, ils ont annoncé mardi dernier avoir débloqué une enveloppe de 89 milliards de dollars afin d'aider au déminage de l'Ukraine. Parce que selon Kiev, donc la capitale de l'Ukraine, la moitié du pays est contaminée en ce moment par des engins explosifs qui ont été déposés pendant cette guerre. Donc on parle de mines antipersonnelles, d'antichars et d'antivéhicules aussi. Donc ce sont des...
Il faut comprendre que les mines, c'est sournois. Évidemment, le but, c'est qu'on ne les voit pas, on met le pied dessus. Et c'est terrible parce que ça crée un fléau de personnes qui vivent par la suite dans une situation d'handicap. Ils vont perdre un membre, deux ou trois ou
c'est
quatre.
C'est ça.
Et en plus,
même la vie, des fois, c'est terrible. Hein?
Mais et ils se retrouvent handicapés. En plus... Dans un pays qui est en guerre.
Oui.
Alors, le soutien est très faible, sinon nul. Mm-hmm. Cette arme-là est en fait interdite.
Oui, l'usage des mines antipersonnelles est régi, si je peux dire ça comme ça, par un traité international, donc la Convention d'Ottawa, dont l'Ukraine est signataire. La Convention d'Ottawa, elle a été ratifiée par 164 pays à ce jour. Et ça n'a pas exactement les mêmes portées que les conventions de Genève, par exemple, ou bien le statut de Rome qui balise le droit de la guerre et les crimes qui en découlent. Donc, on ne parle pas vraiment de crimes de guerre avec les usages des mines antipersonnelles, mais c'est quand même régulé. Et malgré ça, il y a une utilisation de ces armes-là en temps de guerre. Et en ce moment, c'est un gros enjeu donc en Ukraine. Et c'est pour ça que l'enveloppe américaine, elle va être versée à des ONG et à des sociétés privées qui sont spécialisées dans le déminage.
En déminage, parce qu'on peut croire que c'est un travail qui est très dangereux.
Oui.
Le traité international d'Ottawa, parce que c'est à Ottawa que ça a été signé, dont l'Ukraine et évidemment le Canada sont signataires, ça date de 1997. Mais il faut noter que la Russie n'a jamais signé cette convention.
Et
alors,
oui, François.
Ils ont, entre guillemets... je ne dirais pas un droit moral de le faire parce que c'est immoral, les mines antipersonnelles. Mais quoi qu'il en soit, on est dans une situation de guerre et les Russes minent le terrain. Mais il est question aussi que les Ukrainiens ne sont pas trop loin derrière.
Ben exactement. Et puis c'est là le côté un peu ridicule de la chose, si je peux dire ça comme ça, parce que donc on donne ces fonds pour déminer, mais on ne va pas les donner au gouvernement parce que justement le gouvernement ukrainien utilise aussi les mines. Et quand... excusez-moi, je me perds un petit peu.
C'est parce que de déminer... Évidemment, c'est sûr que l'Ukraine peut toujours dire « Ah, c'est pas nous, c'est les Russes », mais on a des, quand même certains témoignages même de volontaires canadiens qui ont décidé d'aller servir sous le drapeau ukrainien pour défendre le pays, qui se sont fait dire « Ben là, tu poses des mines, hein, puis ça fait partie du
voilà,
travail. »
Voilà, c'est ça. En fait, je ne voulais pas, disons, mettre l'accusation, mais c'est vrai que, par exemple, l'organisme Human Rights a dit que l'Ukraine semblait respecter toutes les conditions liées aux mines, mais il y a un article quand même qui est paru dans la presse le 22 août dernier, où on apprend que des Canadiens, ils se sont portés volontaires pour combattre les forces russes en Ukraine et ils ont déposé des mines antipersonnelles dans l'est du pays. Donc, c'est une situation qui concerne les deux pays.
Tout à fait. Et l'est de l'Ukraine, en ce moment, ben, c'est justement le théâtre d'une contre-offensive ukrainienne. Alors, on peut penser que... Et les mines, après ça, même une fois que le conflit est réglé, ça reste pendant des années.
Voilà.
Et on se retrouve dans un pays qui entend de paix. Puis on va faire une balade en forêt, puis on se retrouve meurtri pour le reste de nos jours.
Ou même à la mer, parce que donc, l'Ukraine utilise donc, les mines antipersonnelles dans le sol, mais aussi près des zones marines.
Oh, à la plage.
Oui, oh. Exactement.
C'est affreux. En fait, il y a des gens qui depuis longtemps travaillent à régler cette question, au moins à militer, pour aider les gens qui ont été victimes de mines antipersonnelles.
Tout à fait, tout à fait. Donc, je sais que vous me corrigerez sur ce point-là, mais l'organisme Handicap International, qui est donc une association française qui appartient au réseau Humanité et Inclusion. Donc, d'accord. Effectivement, maintenant, ça s'appelle Humanité et Inclusion, qui regroupe une fédération. Ça a été créé en 2009. Et ils œuvrent, en fait, pour protéger au mieux qu'ils peuvent, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas toujours sur place. Dans ce contexte, à protéger les civils en proposant une éducation aux risques et surtout à repérer les zones qui pourraient être susceptibles d'être porteuses et contaminées par les mines antipersonnelles et autres types d'engins explosifs grâce à la couleur et à la forme du sol. Oh. Donc c'est vraiment tout un exercice qu'ils mettent en place pour montrer aux gens, bon, cette zone-là, il faut faire attention.
Parce que, quoi, la mine, c'est en fait une coquille qui est en fer, je suppose. Il doit y avoir une oxydation, donc le sol doit se rouiller,
exactement.
Se rougir. Peut-être que quand ça a été enterré, ça a été fait vite, hein, parce que moi, si je plantais des mines et j'avais ça entre les mains, je ne donnerais pas un coup de pelle dessus. Donc, on peut peut-être reconnaître le sol, mais c'est, mm-hmm. c'est ténu, là.
Ça demande une observation, oui, ça demande de faire attention. Et j'imagine que quand on vit dans un pays en guerre, on est un peu plus alerte, en
ouais,
fait. Donc,
on est plus alerte, mais on est aussi plus en danger.
Oui.
Donc, c'est cet organisme, donc Handicap International ou maintenant Humanité et Inclusion, mm-hmm. ils font plus que ça maintenant. Ils ont donné... permis à des jeunes femmes, entre autres, dans le monde de réaliser des rêves.
Exactement. Donc, en fait, depuis août 2018, le projet de Humanité et Inclusion a accompagné 185 filles handicapées, dont Kabita, dont je vais vous parler tantôt, pour les aider à trouver des moyens de subsistance et à améliorer leur inclusion dans la société. Donc, le projet... en tout, est supposé aider environ 800 filles du district de Bangke au Népal, dont Kabita fait partie. Donc, en fait,
Kabita, c'est l'histoire, c'est une jeune femme
népalaise. Oui, voilà. Exactement, de 21 ans et qui donc a bénéficié de ce projet, du projet d'humanité et inclusion, qui donc a démarré en 2018. Et elle, son rêve, c'était de conduire une petite voiture électrique qui s'appelle le rickshaw.
Le rickshaw qui est en fait souvent on voit les gens qui c'est comme une charrette à bras là.
Voilà,
souvent
c'est
fait les gens courent ou font du vélo. Dans son cas c'est un rickshaw ou un pousse-pousse électrique.
Voilà.
Parce que Kabita a un handicap mais pas suite à une mine là, c'est autre
non,
chose.
Non, c'est de naissance et elle a subi beaucoup de discrimination en tant que personne handicapée, mais aussi en tant que femme. Et donc, elle a eu du mal à convaincre sa famille qu'elle voulait faire ce métier-là, qui était considéré comme, qui est toujours d'ailleurs considéré comme un métier d'homme, et les préjugés qu'il y a au sein des communautés. Donc oui, vous parliez aussi du c'est soit à bicyclette ou on peut aussi le conduire en scooter, le rickshaw.
Oui, oui, d'accord. Mais dans son cas, c'est un truc, c'est la même chose, mais électrique.
Oui.
Et c'est vrai que dans beaucoup de cultures où déjà le handicap est stigmatisé, c'est d'autant... On double la mise si, en plus, on est une femme.
Exact.
Là, à ce moment-là, dans l'échelle de la société, là, on est plutôt au bas et on ne vous donne pas beaucoup de chances de percer, si je peux dire. Donc,
et d'être entendu, malheureusement.
Oui, tout à fait. Et donc, Handicap International, cette société, c'est une
association,
une association,
oui,
internationale, beaucoup, c'est un organisme, voilà, non gouvernemental. Et cette ONG est une, en fait, ne fait, a dépassé ou a débordé son rôle qui était à prime abord pour aider les gens qui étaient victimes de mines antipersonnelles. Parlant de droits et d'inclusion dans la société, vous avez été faire un tour aussi en Côte d'Ivoire.
Et oui, donc dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ouh là là, j'espère que c'est ça, sinon
oui,
je vais me faire
tout
taper
à
sur
fait.
Les doigts.
Voilà, bon, votre géographie est juste. Bravo, Camille.
Parfait. Merci beaucoup. Donc oui, donc en juillet dernier, j'ai appris que l'ONG, donc là ce sera en anglais, Disability Inclusive Development Programs and Services de Jeannette K. Le Guil, en collaboration avec d'autres organismes qui luttent pour les droits des personnes en situation de handicap, se sont constitués une société civile. Donc pour, pas promouvoir, mais vraiment installer et développer les droits des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Donc une première réunion a été organisée le 13 août à Abidjan, pour discuter de l'organisation pratique de la société civile et pour, donc, comme je disais, la promotion des droits. Donc vraiment, le but de cette société civile n'est pas d'une démarche de plaidoyer, c'est vraiment de travailler sur l'inclusion et la cohésion sociale des personnes qui vivent en situation de handicap. Par exemple, au niveau électoral, on parle d'aménagement des lieux et des bureaux de vote que quand les personnes en situation de handicap, pour qu'elles puissent voter, faciliter le vote des personnes qui ont un handicap visuel, en permettant donc qu'ils puissent opérer leur choix de vote sans se faire accompagner.
Un peu ce dont on a parlé tout à l'heure avec Mme Drolet, qui est porte-parole d'Élections au Québec.
Oui.
Là-bas, évidemment, l'exercice du droit démocratique est aussi important, mais peut-être les moyens et les habitudes, si je peux dire, de la société ivoirienne sont
exactement
parfois encore à développer. Il y avait une très belle citation, d'ailleurs, dans ce communiqué qui disait « La plupart des organisations des personnes handicapées sont des organisations de plaidoyer pour être assistées. Nous voulons désormais contribuer aux discussions concernant le développement de la Côte d'Ivoire pour intégrer les personnes. » Alors, donc, partie prenante de la société. Et ça fait toute une différence. On
oui.
va aller prendre le temps d'avaler une gorgée d'eau, hein? et on va reparler plutôt de sujets culturels.
Plus légers, ben oui.
Voilà.
Retour avec ma collègue Camille Cusset. Avant de revenir plus près de nous ici au Québec, dans le domaine médiatique, il commence à être question de la place qu'occupent les personnes en situation de handicap, entre autres à la télé française.
Et si je peux me permettre, ce n'est pas trop tôt. Donc oui, une nouvelle émission va voir, a vu, en fait ça a commencé la semaine dernière, une émission de style talk show. Sur la chaîne française France 2, donc d'une durée d'une demi-heure. Et en fait, ça va consister à poser des questions, puis à interpeller, avoir une discussion, en fait, avec des personnes qui vivent avec qui sont sur le spectre de l'autisme.
D'accord.
Et dans cette émission, les participants n'évoqueront jamais leur situation de handicap, mais vraiment, ce sera une conversation comme on pourrait en avoir autour d'un bon verre avec un ami. Au cours d'une entrevue, Clément Chauvin, l'un des producteurs de cette émission, donc qui passe, je répète, sur France 2, qui est une chaîne française, les samedis à 20h30, il a déclaré « On ne parle pas d'inclusion, on la pratique ».
Ah, voilà.
Exactement, donc c'est ça vraiment dans l'esprit. C'est une émission qui a été proposée par Éric Toledano et Olivier Nakache, qui sont donc les réalisateurs d'Intouchables, ce film qui a reçu beaucoup de critiques positives.
Tout à que fait réfléchir.
Oui, vraiment, et puis qui est très bien fait. Et aussi du film Hors Normes. Donc ça, Hors Normes, je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est avec Monsieur Vincent Cassel, et que c'est aussi un très beau film, apparemment. Donc l'horaire choisi aussi, c'est une nouveauté et c'est un grand pas aussi pour la diversité à l'écran, parce que 20h30, c'est quand même une heure de grande écoute.
Exact, ouais.
Donc ça permet aux gens de voir tout ça. Aussi, à partir du 22 septembre 2022, Canal+, qui est aussi une chaîne française, proposera l'Épopée joyeuse. Donc c'est une série documentaire de 40 minutes, donc il y aura 4 épisodes de 40 minutes sur le parcours de personnes qui vivent avec un handicap mental ou cognitif et qui trouvent un emploi dans les Cafés Joyeux. Donc les Cafés Joyeux, c'est une entreprise ouverte à leur situation et à leurs conditions et respectueuse de tout ça.
Alors, évidemment, le propos de la deuxième émission, c'est on parle du handicap, la situation d'handicap que vit la personne.
Oui.
Dans la première instance, c'était plutôt, en fait, on n'en parle justement pas.
Voilà.
Parce qu'il y a comme un pas à faire entre, un, il faut inclure les personnes en situation de handicap dans l'espace médiatique, et deux, arrêter de faire de leur handicap le sujet
d'une
narratif.
Émission, hein? Voilà.
Il ne faut pas que ce soit au sujet de la chaise ou au sujet de la canne blanche. ça adonne que la personne a un handicap, mais autant que ça peut adonner qu'elle soit d'une race ou d'une autre, qu'elle porte des lunettes, qu'elle soit petite ou grande.
C'est exactement ça. C'est des choses qu'on reproche beaucoup dans l'univers médiatique en France. Je sais qu'en Angleterre, ça existe moins, notamment dans les séries télévisées. On a des personnages qui sont des personnages et qui ne sont pas des couleurs
des
de
handicapés,
peau,
c'est ça. Sujet du jour.
Voilà, voilà, c'est
exact.
Ça.
Parce que, en fait, je trouvais ça amusant. Enfin, c'est amusant parce qu'on rit pour pleurer. Il y avait une nouvelle, justement, au sujet de la représentation des personnes handicapées à la télé en France. Il n'y a que 0,8%
qui apparaissent à la télévision.
Des personnages qui sont en situation d'handicap.
Exactement. Ça, c'est basé sur une étude de l'ARCOM, donc, qui étudie justement tous les, les systèmes médiatiques, entre autres, c'est pas la seule, mais qui étudie ça. C'est sorti en 2021, et oui, donc 0,8% des personnes qui vivent avec un handicap apparaissent à l'écran, alors que ça concerne 20% des Français, pour 16% au Québec.
Et en 2019, et ça, c'est tellement typique. Les chaînes de télé, puis on pourrait mettre n'importe quel organisme sérieux, c'était pourtant engagé à travers une charte, et là, le mot qui blesse, une charte non contraignante. Ah, voilà. Et 2 ans plus tard, le bilan est très décevant à ce qu'on nous dit, parce qu'ils n'ont rien fait. Une charte qui est non contraignante,
on
là,
aime ça, n'est-ce
ça
pas?
N'a pas beaucoup de valeur. On est tous pour la vertu, mais est-ce que nous la pratiquons?
Bon, bien dit.
Voilà, c'était la partie éditoriale du jour.
On apprécie. D'ailleurs, ça me permet, si vous permettez, de faire un petit clin d'œil à une télé-réalité qui va sortir sur Ami Télé en février prochain. Donc, Et si c'était toi ? Donc ça, c'est une télé-réalité, donc amoureuse, avec seulement des personnes qui sont aussi en situation de handicap, donc qui vont à la recherche de l'amour. Et ça, c'est une première, je crois, dans l'histoire de la télé-réalité.
Et parce que là aussi, c'est un autre tabou. Les personnes en situation de handicap peuvent-ils avoir des vies affectives ou sexuelles?
Exactement.
Hein, ça, c'est, et oui, tout à fait. La réponse est oui sur les deux, aux deux cases. Et donc, cette série-là, ça va être à Ami Télé.
Oui.
Ici, dans le milieu, dans l'espace médiatique francophone et en février.
Oui.
Parlant d'événements au courant de la prochaine semaine, là, et il faut un peu se dépêcher pour s'y inscrire, il y a un organisme canadien, mais qui est plus canadien-anglais que canadien-français ou francophone, qui s'appelle Disability Without Poverty, qui organise ce jeudi midi. Donc, c'est vraiment tout près de nous, là.
Et oui.
Un dîner-causerie, mais il va être également possible d'y participer non seulement en personne, mais aussi par Zoom.
Oui.
Et le dîner aura lieu donc de 13 à 15 heures au centre Saint-Pierre sur la rue Panet, à la salle Marcelin Champagnat. Le mouvement Le Handicap sans pauvreté est un mouvement canadien, un mouvement citoyen qui essaie de pousser le gouvernement fédéral à mettre en place un revenu minimum assuré pour les adultes en situation de handicap entre 18 et 65 ans. On en parlait tout à l'heure dans le segment électoral de notre émission. Et cette prestation pour les personnes en situation de handicap, le projet de loi C-22, bien, il faut que les gens en situation de handicap partout dans le pays se lèvent ou fassent du bruit ou lèvent la main ou en fait fassent quelque chose pour signifier l'importance qu'un tel projet peut avoir pour nous et qu'on aide à sa création et aux détails qui vont le sous-tendre. Alors, cet événement a lieu ce jeudi 15 septembre. Vous pouvez aller sur le site handicap... le site, parce que le site officiel en anglais, le nom est assez long, merci, et on va vous en faire grâce. Mais il est important de voir les événements qui ont lieu pour mousser la participation des personnes en situation de handicap au sujet de la prestation canadienne. Voilà.
Tout à fait. Et ils ont aussi d'ailleurs un webinaire qui aura lieu donc le 22 septembre. Donc on aura certainement l'occasion de reparler.
Ah, mais bravo, on va pouvoir s'en reparler.
Oui, tout à fait. Donc sur la même question, la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap, il y aura des interprètes ASL et LSQ, des sous-titres anglais et la traduction simultanée en français. Donc on s'en reparlera bien sûr.
Ah ben oui, la semaine prochaine, tout à fait, avec tous les détails. Parlons théâtre maintenant.
Et oui, donc un peu de culture. Les Waitresses sont tristes. Donc c'est une pièce de théâtre qui va être disponible en audio description à l'espace libre. Donc l'audio description, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un procédé qui consiste à décrire oralement les éléments visuels et sensoriels d'une œuvre, donc à l'attention d'un public non-voyant, semi-voyant, pour faciliter la compréhension et pour donner l'accès à la culture à tout le monde. Donc la pièce « Les Waitresses sont tristes », ce sera le 28 septembre à 19h et le 29 septembre à 20h. Donc, vous pouvez, les coûts des billets au tarif réduit, c'est de 10 dollars au lieu de 35. Ils sont offerts aux groupes de spectateurs non-voyants et semi-voyants. L'espace libre accepte la carte accompagnement loisirs. Donc, si vous, vous en avez une, c'est l'occasion de l'utiliser. Et il est possible de s'inscrire en ligne également. Donc, avant le 16. Donc,
et le 16, c'est bientôt, là.
Oui, 12, exactement.
13, 14, 15, 16, 16, c'est vendredi. Alors, voilà. Il faut faire ça cette semaine.
C'est ça. Donc, surtout, n'hésitez pas. Est-ce que je peux faire une petite description de la pièce?
Ah, ben oui, tout à fait.
Donc, selon la description qui a été communiquée par Espace Libre, au son d'une balade country, Morrison, le cow-boy, part à l'aventure, accompagné de son fidèle ami, Timus. Il s'arrête dans un bar où les waitresses servent de la bière et dansent en ligne. Youhouhou!
Oh, la danse en ligne, ça, c'est très populaire.
Ah ben oui! Et partout, hein, pas seulement au Québec. J'étais assez intéressante parce que, pour les auditeurs qui ne savent pas, je viens de la Guadeloupe. Je suis arrivée ici il y a 13 ans. Puis la danse en ligne, je l'ai redécouverte aussi ici. Donc ça
oui.
m'a fait plaisir.
Ah oui, oui, tout à fait. C'est... Il y a des milliers de personnes qui font de la danse en ligne. Là.
Exact. Donc,
Timus et Morrison qui arrivent au bar,
voilà.
Il y a de la danse en ligne.
Oui, mais derrière cette fiction fabriquée de toutes pièces se cache un artiste esselé, rêvant à la vie nomade d'un héros western. Pour fuir la tristesse de son quotidien, il s'est inventé un alter ego, tandis que Timus est un chat mécanique et l'aventure, une simple marche sur un tapis roulant. Oh. Donc c'est assez atypique et puis ça vaudrait vraiment la peine de la voir et de l'entendre.
Et si je comprends, les waitresses sont tristes, c'est une création d'un artiste qui est
oui.
neurodivergent.
Exactement.
Et donc ce n'est pas un point de vue, je dirais, aussi terre à terre qu'on pourrait le croire. Il y a là-dedans vraiment une expérience. Je dirais, n'est pas souvent portée à la scène.
Mais il y a toute une réflexion, et c'est très vrai ce que vous dites là. En fait, cet artiste, il appartient à la compagnie Joe Jack et John. Et le mandat donc, de cette compagnie-là, c'est vraiment l'inclusivité, bien sûr, à faire entendre la parole des personnes qui sont peu écoutées et donc qui ont souvent une vision de la vie qui est... Qui est influencé, veut pas, par leur situation de handicap, par leurs conditions.
Qui est atypique, mais tout aussi valable.
Voilà, mais bien sûr. Mais qui change surtout de ce qu'on voit d'habitude. C'est un petit peu comme le fait d'avoir des femmes réalisatrices. On a le point de vue des femmes à l'écran, et pas seulement devant la caméra. Donc, c'est oui. Donc, je répète, les waitresses sont tristes. Inscrivez-vous sur le site de l'Espace Libre. Avant le 16 septembre. Donc.
Et Espace Libre, pour ceux, si je ne me trompe, c'est sur la rue Ontario, un petit peu à l'ouest de Papineau.
Ça doit être ça. Je sais que
ça
c'est sur Ontario,
ça.
Mais
moi,
où exactement?
Moi, vous avez déménagé, mais là, j'espère pas vous envoyer sur une mauvaise piste. Mais pour réserver, obtenir plus d'informations, communiquer avec Mme Pénélope Bourque, au 514-279-9821, 514-279-9821, ou encore Pénélope, P-E-N-E-L-O-P-E, à commercial Joe Jack John, joejackjohn.com. Avant le 16 septembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Camille,
merci
de nous
à
avoir
vous.
Accompagnés partout dans le monde, en Ukraine, en Côte d'Ivoire, au Népal, en France et peut-être sur la rue Ontario. Je remercie également notre recherchiste infatigable, Mme Claire Guérin, et à la régie technique, notre compère, M. Mathieu Tessier. Ici François Beauregard. On se reparle lundi prochain, midi à Sans Détour. Merci. Belle semaine, tout le monde.